le journal, Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Emmanuel Macron reviendra ce soir à 20h sur le remaniement. Selon l'Élysée, le mandat politique du nouveau gouvernement reste le même. Analyse et commentaires dans un instant. Dans l'Aude, les habitants des zones inondées nettoient et constatent les dégâts. Le dernier bilan est de 12 morts, au moins 2 disparus et 9 blessés. Le navigateur Alain Goma, pris en otage au Yémen, a été libéré. Il a passé plus de 4 mois et demi aux mains de rebelles houthis. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est en Arabie aujourd'hui et en Turquie demain. Visite axée sur la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à Istanbul. 5 sortants, 8 entrants. 2 semaines après le départ de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur, le gouvernement est enfin remanié. Pas de coup d'éclat, pas de prise de guerre, pas de personnalité inattendue. D'ailleurs, l'Élysée l'affirme, le mandat politique reste le même. Et on note le souci du maintien des équilibres politiques. Le MoDem est renforcé, mais il n'y a pas d'ouverture significative vers la gauche ou la droite. Pour le poste le plus exposé, le ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron a choisi un fidèle, Christophe Castaner, qui, à peine nommé, est allé rencontrer les policiers du commissariat des Lilas en Seine-Saint-Denis. Mais l'ancien délégué général de la République En Marche hérite d'un portefeuille rétréci, délesté de la charge des collectivités territoriales et il est épaulé par un spécialiste, le patron du renseignement intérieur, Laurent Nunez, nommé secrétaire d'État, qui aura notamment pour mission de rétablir une relation de confiance avec la police. Bonsoir Antoine Maretz.
Bonsoir.
Alors comment ce duo est-il perçu ?
Eh bien comme la preuve qu'aucun profil idéal ne s'est dégagé pour ce poste. Vous l'avez dit, 2 personnes au lieu d'une pour un ministère rétréci. Le fidèle Christophe Castaner, pour éviter tout risque politique. L'expert Laurent Nunez, numéro 1 de la lutte antiterroriste. Nunez n'était pas assez politique, Castaner pas assez spécialiste. Laurent Nunez va tenter de rétablir la confiance entre l'exécutif et la police. Une confiance quelque peu ébranlée avec l'affaire Benalla. L'homme n'a pas d'étiquette politique, mais il est considéré comme loyal à l'exécutif et il est apprécié des syndicats de police. Cet énarque est passé par des postes opérationnels de premier plan. Avant d'être patron du renseignement intérieur, il a été notamment directeur de cabinet à la préfecture de Seine-Saint-Denis, directeur de cabinet à la préfecture de police de Paris et préfet de police de Marseille. Il va être confronté avec Christophe Castaner à 2 dossiers sensibles qu'il maîtrise. La menace terroriste, toujours présente, la violence dans les banlieues sensibles liées au trafic de drogue. 2 hommes au ministère de l'Intérieur, c'est une situation quasi inédite. Il faut remonter à 1988 pour trouver un précédent. L'attelage Robert Pendreau, Charles Pasqua, dont on a retenu la célèbre phrase « Nous allons terroriser les terroristes ».
Jacques Mézard parti, Jacqueline Gourault est promue ministre de plein exercice d'un grand ministère des territoires. Et autour d'elle, 2 ministres de plein rang vont la seconder. Sébastien Lecornu aux collectivités territoriales et Julien de Normandie en charge de la ville et du logement. Bonsoir Alexandra Dubouchereau.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
C'est un gage donné aux collectivités qui se sont souvent senties malmenées depuis le début du quinquennat, une volonté de se rapprocher des territoires.
Oui, à commencer par la ministre elle-même, Jacqueline Gourault, grande spécialiste des collectivités territoriales. Cette centriste du Loir-et-Cher a notamment été vice-présidente de l'Association des maires de France. Mais elle est aussi passée par tous les échelons locaux, de maire à sénatrice. À Beauvau, où elle était ministre auprès du ministre de l'Intérieur, elle a voulu incarner la voix des territoires. Ce matin, elle expliquait pourquoi elle restait au gouvernement pour ses élus locaux, justement.
Pour les accompagner dans ce qu'ils font formidablement sur l'ensemble du territoire. Il n'y a jamais eu de cassure totale, nous avons toujours travaillé avec eux.
C'était ce matin chez nos confrères de RTL. Autre gage donné aux collectivités, vous l'avez dit, Jacqueline Gourault a 2 ministres à part entière avec elle, l'ex-secrétaire d'État et élu dans l'heure Sébastien Lecornu, proche d'Édouard Philippe, et puis Julien de Normandie, haut fonctionnaire fidèle d'Emmanuel Macron. Enfin, regardons du côté des compétences de ce ministère. On ne parle plus seulement de cohésion des territoires, mais de cohésion des territoires et de relations avec les collectivités locales. Un élargissement salué par le président de l'Association des maires ruraux, Vanick Berberian.
C'est a priori plutôt une bonne idée parce que même si les choses ne sont pas identiques, elles découlent l'une de l'autre. Donc on peut saluer cette volonté d'avoir une vision globale. Après, pour le reste, peu importe qui détient le portefeuille, nous ce qu'on attend c'est une capacité à nous écouter et à faire en sorte que les territoires ruraux soient davantage considérés, et en premier lieu les élus.
La prudence est donc de mise. Les élus locaux restent très remontés contre ce qu'ils jugent être une dérive centralisatrice, comme la suppression de la taxe d'habitation. Sur Twitter, Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France, a souhaité du courage à ses 3 ministres pour combler, dit-il, le fossé entre l'État et le terrain. À l'Association des maires de France, on se contente de dire que Jacqueline Gourault est loin d'être appréciée. Et puis à noter, et ce n'est pas un détail, ce matin le ministère a été rétrogradé du 7e au 13e rang dans l'ordre protocolaire.
Didier Guillaume, ex-socialiste proche de Manuel Valls, succède à Stéphane Travert au ministère de l'Agriculture. Le député de centre droit Franck Riester arrive à la culture. Il avait planché sur de nombreux dossiers culturels en tant que député. Jean-Michel Blanquer reste à l'éducation, mais son portefeuille s'étoffe et il se voit adjoindre un secrétaire d'État chargé de la jeunesse, le jeune député La République En Marche, Gabriel Attal. Il est chargé de la mise en place du service national universel, Hakim Kasmi.
Oui, et les mesures phares de la campagne d'Emmanuel Macron, le service national universel qui doit être expérimenté à partir de l'année prochaine, à l'automne, s'adresse aux jeunes à partir de 16 ans. À terme, il sera obligatoire. Dans un premier temps, il durera un mois pendant les vacances scolaires, avec notamment 15 jours en hébergement collectif pour favoriser le brassage social. Gabriel Attal, le nouveau secrétaire d'État à la jeunesse.
La société a besoin d'engagement. Et vous parlez à beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils vous disent tous qu'ils ont envie de s'engager. Mais beaucoup ne savent pas trouver les moyens de s'engager, ne trouvent pas les vecteurs pour s'engager. Et pour moi, le service national universel, ça va être justement ce vecteur-là. Ça va permettre de donner goût, de donner envie et de donner les voies de l'engagement pour un engagement de plus long terme.
Tout n'est pas pour autant réglé. Le ministère va devoir trouver de l'encadrement et des locaux pour les hébergements. Les internats et les résidences étudiantes pourraient être utilisés. Un dispositif qui va demander aussi beaucoup d'argent. Au moins 1,7 milliard d'euros par an serait nécessaire, selon les experts qui doivent rendre leur rapport à la fin du mois de novembre. Pour une validation directe de l'Élysée d'ici le mois de décembre, le service national universel doit concerner à l'horizon 2026 toute une classe d'âge, soit environ plus de 700 000 jeunes chaque année.
Et puis je vous cite encore un nom, celui de Marc Fesneau, ce proche de François Bayrou, fin connaisseur des réseaux d'élus, élu nouveau ministre des Relations avec le Parlement. Emmanuel Macron prononcera ce soir une allocution télévisée à 20h pour présenter aux Français ce gouvernement remanié. Remaniement déjà abondamment commenté à l'Assemblée nationale, d'où vous revenez, Anne Fauquemberg. Les nouveaux ministres ont été largement interpellés par les députés.
Oui, et bien Aurélie, pour l'opposition, ce gouvernement ne répond pas aux enjeux des Français. À droite et à l'extrême droite, la figure de Christophe Castaner à l'intérieur crispe, jugée trop à gauche pour le poste. Et plus globalement, compte tenu de l'incroyable suspense de ces derniers jours, la députée LR Virginie Duby-Muller estime que le remaniement accouche d'une souris.
Tout ça pour ça. Un petit jeu de chaise musicale sans changement de ligne politique. Ce qui est sûr, c'est que ce remaniement n'entraîne rien de nouveau pour les Français. Rien sur l'insécurité, rien sur le pouvoir d'achat et même 300 millions d'euros de moins en 2019, qui s'ajoutent aux 4,5 milliards de baisse en 2018 pour les Français. Quand aurons-nous enfin un véritable capitaine à la barre ?
Voilà pour Édouard Philippe, qui est habitué depuis 15 jours à recevoir les foudres de l'opposition de droite, tandis qu'à gauche, les socialistes étaient à l'offensive. Le député Luc Carvounas demande des excuses officielles à Jacqueline Gourault pour la campagne hashtag balance ton maire. Cette campagne qui a épinglé un peu plus de 5000 maires qui ont augmenté le taux local de la taxe d'habitation contre l'avis du gouvernement. Eh bien, la ministre qui a pris de l'étoffe ce matin avec son nouveau portefeuille, on vient d'en parler, elle recadre à la fois les maires et les instigateurs de la campagne.
Les maires ont liberté de vote des taux, c'est une des libertés locales, ils l'ont fait en connaissance de cause. C'était un engagement du président de la République que la suppression de la taxe d'habitation. Chacun a pris ses responsabilités. Enfin, troisièmement, quand on attaque un maire, on attaque la République. Quand on attaque les députés, on attaque la République. Quand on attaque le gouvernement, on attaque la République.
Et puis c'était aussi la première prise de parole du nouveau ministre de la Culture, Franck Riester. Question gentillette d'un député La République En Marche sur le voyage d'Emmanuel Macron la semaine dernière à Erevan. Le nouveau ministre de la Culture qui est adoubé en ce moment même à l'Institut du Monde Arabe par Jack Lang en présence du chef de l'État.
Anne Fauquemberg, le projet de loi Élan sur le logement est officiellement adopté après un dernier vote du Sénat. Une loi pour construire plus, mieux et moins cher avec un volet important sur le logement social. La France Insoumise dénonce une opération politique après les perquisitions menées au domicile de Jean-Luc Mélenchon, au siège de son parti et aussi dans les locaux du parti de gauche. Ces perquisitions ont été menées dans le cadre des enquêtes sur des soupçons d'emploi fictif d'assistants parlementaires et sur des comptes de campagne. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
Les Insoumis ont tenté de retourner l'événement à leur avantage.
Oui, une riposte politique menée tambour battant depuis ce matin. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé ce qu'il qualifie de police politique en postant un selfie sur Twitter en pleine perquisition chez lui. Il s'est ensuite rendu au siège de la France Insoumise avec plusieurs députés pendant qu'une trentaine de policiers fouillaient les lieux.
Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Vous ne me touchez pas. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte.
Échange très musclé au micro de Laurence Perron, Jean-Luc Mélenchon prend ensuite la parole sur le trottoir devant ses troupes.
Je demande que mes comptes soient réexaminés. J'ai pas fini. Je demande que puisqu'on me perquisitionne, et puisqu'on perquisitionne le siège du mouvement dont j'ai l'honneur d'être membre, eh bien alors, je m'étonne qu'on ne perquisitionne pas M. Macron, qui lui aussi fait l'objet d'un signalement. Et qu'on perquisitionne aussi le responsable du mouvement La République En Marche, le ci-devant ministre de l'Intérieur depuis ce matin, parce que M. Castaner, lui aussi, est responsable d'un mouvement qui fait l'objet d'un signalement.
On est là,
mais
Jean-Luc,
c'est un coup de force contre nous, parce que c'est destiné à nous faire peur et à m'intimider. Je ne me laisserai pas faire, je n'ai pas peur, mes amis n'ont pas peur, c'est eux qui vont avoir peur.
Résistance !
Et dans l'hémicycle, enfin, Jean-Luc Mélenchon a interpellé cet après-midi le Premier ministre lors des questions au gouvernement. Édouard Philippe lui répond tranquillement.
Dans l'accomplissement des procédures judiciaires, la justice est évidemment indépendante et il nous appartient de faire prévaloir ce principe d'indépendance.
Peu de soutien sur les rangs de l'Assemblée pour la France insoumise, à l'exception de Marine Le Pen, elle aussi visée par une enquête qui a proposé d'ailleurs l'aide de ses avocats à Jean-Luc Mélenchon et déclaré « Je pense qu'un régime où il n'y a pas de séparation des pouvoirs est totalitaire ». Fin de citation.
Sophie Delpont, 12 morts, 9 blessés et au moins 2 disparus, c'est le dernier bilan en provenance de l'Aude, où la vigilance rouge pour risque d'inondation et de crue a été levée. Le département est à présent en vigilance orange. Les habitants sont maintenant occupés à nettoyer les dégâts. À Trèbes, c'est la débrouille et la solidarité, comme en témoigne le reportage de Thibault Lefebvre.
Vous avez jeté des clés ou pas? Jetez.
À la fenêtre, merci. Huguette, 83 ans, sa maman centenaire vient de tomber de son lit. Julien, un voisin, vient spontanément l'aider.
C'est pour la mettre là-dessus.
Vous voulez que je vous aide à la porter?
Oui, je veux bien, s'il vous plaît.
1, 2, 3, allez.
Depuis lundi, les deux femmes sont réfugiées dans une chambre au premier étage de leur maison. La maman d'Huguette est alitée, elle refuse d'être évacuée. Et depuis quelques heures, elle ne prend plus ses médicaments contre l'hypertension.
Il faut que je retrouve mes infirmières. Les médicaments, je les ai là. Mais
elles, pas les doses.
Les pilules ont été inondées. Donc hier, elle a été sans médicaments. Attendez, vous avez l'annuel chez vous?
On n'a plus un chez nous, ça a été détruit aussi.
Julien n'a pas d'annuaire, mais un téléphone portable avec internet. Et au bout de quelques minutes, il trouve le numéro de l'infirmière.
Vous ne pouvez pas venir?
On a des problèmes de téléphone. J'essaie d'appeler Chantal.
Et qu'elle vienne s'enfanter.
Mais c'est pas facile, donc elle viendra dès qu'elle peut.
Chantal ne viendra pas assez tôt, alors Julien promet à Huguette de repasser dans la journée.
C'est des gens âgés, les secours ne peuvent pas spécialement faire ce qu'il faut. On essaie de remplacer, même si on ne connaît pas le domaine. Là, tout le monde essaye de se soutenir. Je pense qu'on a besoin de ça. Tout le monde a besoin d'aide aujourd'hui.
Et Julien a lui aussi été aidé, chassé de sa petite maison par l'eau. Il dort depuis hier chez son voisin Stéphane, qu'il ne connaissait pas avant la nuit de dimanche à lundi.
Thibault Lefebvre à Trèbes dans l'Aude. Il était retenu depuis plus de 4 mois et demi au Yémen par des rebelles houthis. Le navigateur Alain Goma a été libéré. Il a quitté le Yémen, mais on ne sait pas encore quand il sera de retour en France ni dans quelles circonstances il a été libéré. C'est en tout cas un immense soulagement pour ses proches. Écoutez sa sœur Christine Goma, jointe par Valérie Crova.
C'est les affaires étrangères qui nous ont téléphoné ce matin pour nous dire voilà qu'il était entre les mains de Français. Et on sait que ça y est, il a pris l'avion pour le sultanat d'Oman. Donc on ne sait que ça pour l'instant.
Parce qu'apparemment le sultan d'Oman aurait joué un rôle important. Hein.
Oui, c'est ce que il nous a été dit. L'Arabie Saoudite aussi a autorisé l'avion de décoller. Ça c'est important aussi. J'imagine que là il doit être moralement épuisé. Fatigué physiquement et moralement épuisé. Ça fait tellement de temps qu'on espère, qu'on ne sait pas comment une situation aussi compliquée peut se dénouer. De quelque chose qui paraissait vraiment impossible, eh bien, il y a quand même une solution qui est sortie et dans des délais, on va dire, somme toute, assez raisonnables pour une situation pareille. C'est formidable. Et on se dit qu'on a bien fait d'y croire et continuer à y croire, puisqu'on est en train de monter encore un comité de soutien pour continuer à être présent. Bon, on n'aurait pas lâché. C'est comme ça, je crois, que quand on a un membre de la famille qui a besoin d'aide, on est présent. Et puis voilà, quoi, c'est pas un choix, c'est quelque chose de spontané. Donc c'est une grande joie et inespérée.
Christine Goma, sœur du navigateur Alain Goma. Face au retentissement international de l'affaire Khashoggi, Donald Trump a dépêché son secrétaire d'État en Arabie Saoudite. Mike Pompeo est chargé de tirer les choses au clair aujourd'hui à Riyad et demain en Turquie. Car selon des responsables turcs, Jamal Khashoggi, journaliste exilé aux États-Unis et bête noire du prince héritier saoudien, a été tué au consulat par des agents saoudiens venus de Riyad. Le pouvoir saoudien lui tente de minimiser son implication, évoquant maintenant un interrogatoire qui aurait mal tourné, Grégory Phillips.
Cette version d'un interrogatoire qui a dérapé semble donc être la thèse défendue par les autorités saoudiennes, selon CNN et le New York Times, qui ont interrogé plusieurs proches du dossier. Si elle paraît peu crédible, cette thèse permet en tout cas d'innocenter notamment le prince héritier Mohammed bin Salman, qui peut faire valoir qu'il n'était au courant de rien. Et depuis Washington hier, Donald Trump a semblé accréditer cette version de l'histoire, en arguant que la disparition de Khashoggi pouvait être l'œuvre de voyous ou de tueurs hors de contrôle. Les Américains, en réalité, sont très embarrassés. Jamal Khashoggi vivait en exil aux États-Unis depuis 2017 et était collaborateur régulier du Washington Post. Preuve de cet embarras, les déclarations contradictoires de Trump, qui il y a quelques jours avait menacé Riyad d'un châtiment exemplaire, mais expliquait dans le même temps qu'il ne voulait pas perdre les juteux contrats d'armement passés avec l'Arabie Saoudite. Embarras encore avec Mike Pompeo, qui à Riyad aujourd'hui dit vouloir faire toute la lumière sur cette affaire, mais de manière fort diplomatique, tient avant tout à rappeler les liens très forts entre Américains et Saoudiens. Embarras enfin quand un proche de Trump, le sénateur républicain Lindsey Graham, dit tout à l'heure sur Fox News qu'il est persuadé que le prince Ben Salman, MBS, est un sale type qui a commandité cet assassinat. Une vingtaine de sénateurs, républicains comme démocrates, continuent d'ailleurs de réclamer, suite à la disparition du journaliste, des sanctions américaines contre Riyad.
L'affaire Khashoggi a donc mis en lumière l'embarras occidental, américain mais aussi européen vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, ce que l'on souhaite ménager en raison des contrats d'armement qui nous lient à Riyad. Et cette influence des États du Golfe se mesure aussi aux portes de l'Europe, en Libye. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir.
La Libye où les pays du Golfe sont de plus en plus présents.
Les Émirats Arabes Unis notamment, qui aux côtés de l'Arabie Saoudite y poursuivent leur bras de fer avec le Qatar et donc exportent leur rivalité à 2500 km de la péninsule arabique. Cela ne sert pas les intérêts européens dans la région, mais là aussi, l'Europe, pourtant désireuse d'œuvrer à la stabilité de la Libye, s'avère impuissante à gendarmer ces États, toujours pour les mêmes raisons, ce que nous explique Jalel Archaoui de l'Université Paris 8.
Les États du Golfe sont déjà dans une logique où les États-Unis, le seul géant qui leur importe vraiment, est en train de se retirer. Pour eux, les Européens sont quand même des petites puissances régionales, et dans leur esprit, ce sont eux les preneurs d'initiative et pas les Européens. Les États du Golfe sont embarqués dans une logique qui consiste à ignorer les desiderata européens.
Quel est leur levier finalement pour ignorer ces desiderata?
L'achat d'armes. Il s'agit quand même d'acheteurs extrêmement actifs en ce moment, qui promettent beaucoup, qui promettent même plus que ce qu'ils vont acheter réellement. Mais tant que les promesses existent, qu'elles sont en train de flotter dans l'air, eh bien, les Français, par exemple, vont tendance à être plutôt silencieux par rapport à leur dépassement éventuel. Et ça, c'est un problème quasiment structurel.
D'autant que sur le théâtre libyen, les monarchies du Golfe poursuivent leur propre logique qui ne rencontre pas celle de la France ou de l'Europe, Jalal Archaoui.
Ils sont vraiment engagés dans une lutte idéologique. Si vous regardez les monarchies conservatrices, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'il n'y ait aucune trace d'islam politique en Libye. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus préoccupés par le message idéationnel ou le message idéologique que ça représenterait d'avoir une Libye où justement les frères musulmans, et je ne parle pas des djihadistes, les frères musulmans, voire modérés, puissent réussir à participer à la gouvernance. Ça pour eux, c'est une éventualité qui est intolérable. Donc ils ne sont pas présents en Libye parce qu'ils sont obsédés par la migration, ils s'en fichent, c'est beaucoup trop loin pour eux. Ils ne sont pas là pour des raisons proprement sécuritaires au sens traditionnel, c'est-à-dire le terrorisme, ils sont là pour une lutte idéologique.
Un combat idéologique auquel les Européens devraient sans doute prêter davantage attention. Une nouvelle conférence sur la Libye doit se tenir le mois prochain en Sicile. France et Italie tenteront alors de parler d'une même voix. Mais il faudra aller au-delà pour envisager une sortie de crise. Le désordre libyen à leur porte est un sujet de préoccupation. Les conséquences en termes migratoires ou sécuritaires, les trafics, le sanctuaire offert aux djihadistes dans certaines zones de Netta failli sont autant d'inquiétudes. Et pourtant, malgré ces enjeux, les Européens restent très timorés face aux interventions saoudiennes et émiraties en Libye.
Marie-Pierre Véraud. Son roman, Le Lièvre de Vatanen, avait connu un succès mondial. L'écrivain finlandais Arto Paasilinna est mort à 76 ans. Son ton décalé et plein d'humour réjouissait ses lecteurs. Ses livres ont été traduits dans des dizaines de langues. Il avait reçu notamment le prix Lille 2004 des auteurs européens pour son roman Petit meurtre entre amis. Le temps sera généralement calme demain mercredi. Soleil généreux sur un grand quart nord-est, légère amélioration sur le sud-est, faible pluie sur le sud du Languedoc et des averses parfois orageuses sur l'est de la Corse. Les températures minimales 3 à 18 degrés, maximales comprises entre 15 et 23, jusqu'à 25 dans le centre et le grand est. Ce journal a été préparé avec Julien Loquet.